Bien, on est toujours dans le Midrash sur le second Passouk. Varetz haïta tohu vabohu, etc. Et ici, ça sera Resh Lakish, Reb Shimon ben Lakish, qui va interpréter le verset. On n'est plus dans l'ouverture, vous remarquez, on est plutôt dans l'interprétation du verset. Alors, ce verset-là, il l'interprète. Et on nous dit ici, il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro. Voilà. Alors, Ve'ares ha'etatoru vabohu, lui va interpréter tout ce verset en termes de galouyot. En termes des exils, en fait. Les différents exils du clan Israël. On l'explique comme ça. Va'aretz haïta tohu vavohu. Alors, la première partie. Va'aretz haïta tohu ze galout bavel. C'est l'exil de Babel, c'est-à-dire le premier exil, on compte pas celui de Mitzrayim, le premier exil après la destruction du premier temple, premier Beth Amigdash, les Bnei Israël ont été exilés en Babel. Pourquoi est-ce que Resh Lakish pense mettre en rapport Va'aretz haïta tohu vavohu avec l'exil de Babel? Parce que marqué dans le Passouk, un Passouk de Yirmiya, Raïti et Taharetz, Veine Tohu. J'ai vu la terre, et voici, elle était Tohu, complètement, on traduit ici par désolation. Tohu, vous souvenez, on a dit que Tohu, c'est lorsque, quand on veut définir quelque chose, on est sans arrêt en train d'errer, c'est-à-dire, comme quelqu'un qui erre, c'est-à-dire qui, il s'engage dans une voie, tiens, ça, voilà, je vais le décrire comme ça. Non, c'est pas vraiment bon, je vais essayer autrement. Non, je reviens en arrière, sans arrêt. On revient en arrière, on tâtonne jusqu'à trouver, on espère trouver une bonne définition. Donc, la terre était dans cet état-là, on ne sait pas quoi en dire, de certaines façons. Ensuite, c'est marqué, Aïta Tohu, Vavohu. Donc, Vavohu ze galout madai. C'est le galout chez les Mèdes. Les Mèdes, c'est ceux chez lesquels on a été en galout. On disait chez les Mèdes et les Perses. Et là, le pasouk, les Mèdes, c'est effectivement le royaume d'Achashverosh. Parce que il s'appuie sur un verset d'Esther, qui est le pasouk Vayavhilu Leavi et Taman. Vayavhilu, la chambre de Behala. C'est-à-dire, c'est dans l'histoire d'Esther, enfin dans les problèmes de Haman. Haman revient d'avoir transporté Mordechai sur le cheval du roi en criant voici, etc. À travers la ville, il lui est arrivé toutes sortes de malheurs. Il est en train de le raconter à sa famille. Il n'a pas fini de raconter que déjà les émissaires viennent et lui disent de se dépêcher de venir au deuxième festin auquel il est convié avec le roi, vous vous souvenez. Vayavhilu. C'est le même mot qu'on retrouve dans la sortie d'Égypte avec la Behala. Certains Sfaradim ont l'habitude de commencer le Seder par un texte qui commence par Bibihilu. C'est-à-dire dans la presse, sous la pression, on essaye de se dépêcher, on essaye de, de s'agiter en quelque sorte, c'est s'agiter un peu dans tous les sens. Et donc l'exil de Madaï, il est caractérisé par Vayabhilu. Ensuite, le Rocher, la suite du verset, le Rocher Admetom, Rocher des ténèbres, ça c'est bien connu, Zegalut Yavan, c'est l'exil, dit l'exil grec, Sheir Shicha Enehem Shel Israël, Bigvoroten, Bigzeroten, pardon, Shaita Omeret Laen, Kitu Al Kiranachor, She'en Lachem Khalek, Beloke Israël. C'est les Grecs qui ont quasiment rendu les yeux des Bnei Israël quasiment aveugles, tellement c'était difficile. Et ils demandaient aux Bnei Israël, écrivez que vous n'avez rien à voir avec le Dieu d'Israël. Et oui, ils leur disaient, écrivez ça sur la corne d'un taureau. Le taureau étant bien sûr mentionné ici pour mettre les Bnei Israël mal à l'aise, puisque c'était un rappel du Vaudor. Et ensuite, Alpene Terom, sur la face de l'abîme, Zeigalut Mamlechet Arisha, Sheilaem Kreker, Kmoa Terom. Alors, ce verset de, sur la face de l'abîme, ça fait référence à l'exil dans le royaume des mauvais, en fait, c'est Rome, en fait. Chez Elaim Kheker, ou dans cet exil-là, il n'y a pas de limite aux tourments qu'ils nous ont infligés. On va dire de la même manière que les Terom, les abîmes n'ont pas de fond en quelque sorte, les Rechaïm, dans la richoute des Rechaïm, dans leur méchanceté, il n'y a pas de limite non plus. Le Ruach Elohim Merachefet, pardon, et l'esprit d'Elohim planait, Zeru Choshen Melech HaMashiach. Ça c'est l'esprit du roi Messie. Ma de Atamar, sur quoi est-ce qu'on se base pour dire cela? C'est marqué Venacha Alav Ruach Hashem. C'est marqué que l'esprit d'Hashem descendra, se posera sur le Melech HaMashiach. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit cela, il continue et il dit Be'ezuschut Be'mashmeshet Uba'a Amrachefet Al-Pnei Amayim. Grâce à quel mérite est-ce que cet esprit qui plane au-dessus des eaux, c'est-à-dire en fait ce Mashiach, c'est ce qui rappelle le Mashiach, c'est quoi le mérite qui nous amène là? Alors, une première réponse, c'est Bishrut HaTshuva, par le mérite de la Tshuva. Chez Nimshela Bemaim, la Tshuva est comparée à l'eau. C'est marqué dans un pasuk de Echa, Shifri Kamaim Liber. Déverse, comme de l'eau, ton cœur. C'est-à-dire dans ta démarche de tshuva, quoi. Rav Chagai b'shem Rav Pedat Amar, Brit Kruta Lamaim. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite avec l'eau. Shafilu b'sha Sharab Rucha Shaifa. Cette alliance avec l'eau, elle vient dire en quelque sorte que même quand le shrav, c'est-à-dire quand la canicule va s'installer, il y aura quand même encore un peu de souffle. C'est-à-dire que ce souffle-là, il ne disparaît jamais. Ukvaraya, et là maintenant on nous raconte quelque chose qui, Gemara, qui se trouve aussi dans Hagia. Ukvaraya, Rabbi Shimon ben Zoma, Yoshev Vetohe. Rabbi Shimon ben Zoma était assis là, et il était Tohe. C'est la chose, donc le Tohu. C'est-à-dire, quelque part, Toé, c'est, eux, ils ont traduit par il s'effondrait, mais ça veut dire il était, de nouveau, Toé, on avait dit, il était en train d'errer, il savait plus où il était. Ils ont dit s'effondrait, il savait plus où il était. Donc, c'était visible que Ben Zoma ne savait plus où il était. Rabbi Yoshua a passé par là et il a vu Ben Zoma, le Shaal Bishlomo. Il lui a demandé comment il allait. Pam, une fois, ou Shtaim, deux fois, et Ben Zoma ne lui a pas répondu. Mais Bashlishit, quand il lui a demandé une troisième fois, Ishivo Bibhilut. Il lui a répondu. Il lui a répondu dans Babéhilout, dans la presse, qu'on a vu la Béhala. Il lui a répondu complètement égaré. Amarlo Ben Zoma. Alors, Rabbi Yoshua lui a dit, Ben Zoma, Me'ain Araglaim. Il lui a demandé, Où d'où viennent tes pieds, en quelque sorte. Ça veut dire où tu es allé, en quelque sorte. Ils ont traduit par où as-tu mis les pieds. Et effectivement, en d'autres termes, ils lui demandent où il en est, quoi. Comme les autres lui répondent complètement le boule-balle. Il m'a demandé où il en était. Et Ben Zoma lui a répondu, il lui a dit, Mayen Haïti, j'étais en train de réfléchir, disons. Je regarde, en fait, les Mayen, c'est réfléchir, mais c'est comme si on avait un texte devant soi sur lequel on est en train de réfléchir. C'est pas je réfléchis comme ça en l'air. Mais en fait, il voulait lui dire je réfléchis sur un texte. Il met Ayen. C'est-à-dire, c'est la chaîne Ayen avec les yeux. C'est-à-dire, je regarde un sujet de très près. J'étudie de très près. Et il lui a dit ce que j'étais en train de regarder à Marlo, donc il lui a dit Meïd ani alai shamaim vaaretz shenizaz mikan ad sheetodieni me'ayin argalim arglaim, pardon. Abdushua lui a dit je prends le ciel et la terre à témoin. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit exactement où tu en es, c'est quoi ton l'objet de ta réflexion. Alors il lui a dit, Mistakel Haïti, Temase Bereshit, j'étais en train d'observer, Mistakel c'est regarder, observer. J'étais en train d'observer Maase Bereshit, littéralement, ça veut dire l'œuvre du commencement. Et je voyais l'Oaya ben Maïma Elionim, le Maïma Tartonim, et la כי שתיים ושלוש אצבעות. פורקוה בסמכה ורוח אלוקים מנשבת אין כתיב כאן. Il n'est pas dit l'esprit d'Elohim soufflait. C'est pour ça qu'il est écrit. C'est marqué Merachefet. Merachefet, c'est comme un oiseau, Kaofazé, Shu Merachef, Uknafav, Uknafav, Nogot Venon Nogot. Comme un oiseau qui est au-dessus du nid où il a ses petits, en fait, et il est en train de battre des ailes au-dessus des petits, les ailes les touchent pas, c'est-à-dire il les frôle. Lorsque Benzoma a dit cela, n'est pas Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua s'est retourné. Vlamar le Talmidav. Il a dit à ses élèves, Alach lo Benzoma. Benzoma, il est parti. Velo Shaou Yamim Muatim. Au bout de très peu de jours, où Benzoma Baolam. Littéralement, ça veut dire il n'est plus dans le monde, en vérité. Il est dans le monde, mais dans un autre monde. Voilà. Voilà le Midrash pour cette semaine. Alors, ça a l'air de toucher des sujets assez différents. C'est toujours un commentaire de ce deuxième verset. Mais dans la deuxième partie, ça se déroule entre Benzoma et Rabbi Yoshua. Alors que dans la première partie, c'est Reish Lakish qui est en train de travailler les choses. Alors, il y a une grande différence, parce que Reish Lakish, c'est un Amora, et Benzoma et Rabbi Yoshua, ce sont des Tanaïm. Ils ne sont pas du tout de la même époque. Le changement de cap là dans le texte où kvar haya Rabbi Shimon ben Zoma yoshev v'tohe, on ne sait pas, tout à coup ça tombe ici comme du ciel. Alors je vous ai dit, c'est un texte qui existe dans la Gemara, dans Chagiga. Qu'est-ce qu'il fait dans... Alors bien sûr, on peut dire à sa place, dans la mesure où c'est un texte qui parle de notre verset. Il parle de Ruach Elohim, l'esprit d'Hachem qui plane sur la surface des eaux. Donc c'est bien notre verset. Mais pourquoi il est mis dans le commentaire qui commence par le commentaire de Reish Lakish, qui parle des Galouyot, alors que lui, a priori, Benzoma, ça n'a rien à voir avec les Galouyot dont il nous parle. Lui, il avait un problème entre ce qu'on appelle les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Alors, vous vous souvenez peut-être que quand Akadosh Baruch Hu a créé le Rakia, il a créé une étendue. Rakia. Vous imaginez une étendue dans un espace, cette étendue, elle va partager l'espace en deux. si on peut parler comme ça, on pourrait dire, ben, il y a ce qui est au-dessus de l'étendue en question et ce qui est en dessous de l'étendue en question. Alors, l'interprétation, elle est que cette étendue, elle va séparer une étendue, elle a un espace d'eau. On a de l'eau, ou de la vapeur, si vous voulez, un espace de vapeur. C'est plus facile à se représenter, mais c'est de l'eau en réalité. Maintenant, Hachem a fait une séparation. Donc, il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et c'est très connu que les eaux d'en bas se sont plaintes. On dit, mais nous, du coup, on est séparés d'Hachem. Hachem, il est avec les eaux d'en haut. Donc, nous, on est défavorisés avec cette histoire. Et c'est là que, entre autres, Adonai Barukhou a dit aux eaux d'en bas qu'il faisait une alliance avec ces eaux d'en bas. Et une partie de l'alliance, ce sera ce qui est fait avec une alliance qui est faite avec les eaux, ce qui va entraîner que la mer va s'ouvrir quand les bénis Israël en auront besoin. Ça faisait partie de la relation privilégiée, si vous voulez, entre Hachem et les eaux d'en bas, c'est-à-dire que les eaux d'en bas vont aider en quelque sorte Hachem à sortir les bénis Israël de Mitzrayim. Alors lui, la réflexion de Ben Zoma, c'est il se disait, mais il y a des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, et quelle est l'épaisseur de la séparation, ces eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Alors il disait, ben, il y en a, c'est deux ou trois doigts. Et puis après, ça semble être sans rapport, il dit, mais justement, le souffle divin, qui est au-dessus des eaux, donc. Il est comparé à un oiseau qui est en train de volter au-dessus du nid, et avec ses battements d'ailes, il touche sans les toucher les oisillons. Et quand il a expliqué ça, Rabbi Yehoshua a compris qu'il était parti là. Il n'est plus dans ce monde. Et effectivement, il est mort finalement. Il a disparu du monde, de notre monde. Il est entré dans un autre monde. Difficile, même dans le texte lui-même, son problème de savoir quelle est l'épaisseur, etc. Qu'après tout à coup on parle de volter, de toucher, pas toucher, c'est de quoi on parle ici exactement. Alors, on va regarder d'abord ce que dit le Eth Yosef sur cette partie-là. Ben Zoma a répondu à Rabbi Yehoshua, il lui a dit, « Ma'ayen Haïti, j'étais très occupé dans cette réflexion, dans cette étude, en fait, au point que j'en ai oublié les sujets, je suis plus dans le monde. » Complètement parti. Et je m'excuse, mais j'ai pas du tout entendu que tu m'as salué. Et pendant deux fois, il l'a salué, Ben-Zoma lui a pas répondu. Pas entendu. Mais visiblement, il lui parle du fait qu'il l'a pas salué. Mais il sait bien que Rabbi Yehoshua, c'est pas ça qui l'intéresse. Il l'intéresse, c'est de à quoi tu penses, à quoi tu réfléchis. Et il veut pas lui dire, visiblement. Mais Rabbi Yehoshua, il a dit, je bouge pas tant que tu m'as pas expliqué. Alors, le commentateur, lui, il explique rien du tout sur l'histoire des hauts et d'en bas, des hauts d'en haut, des hauts d'en bas. Il va tout de suite sur le fait que dans le texte, il n'est pas dit que le souffle soufflait, en fait, que l'esprit de l'Elohim soufflait, mais que il voltait en quelque sorte. Il lui dit Imata les drachas de Rav. Donc il y a une dracha qui est rapportée au nom de ce Rav Chagai. Et d'après la dracha de Rav Chagai, on devrait dire souffler et pas volter. Il amène des tsukim d'après lesquels on voit que c'est comme ça qu'il faudrait dire. Pour cette raison, il a expliqué que c'était donc non pas un souffle, mais c'était volté al-hamayim ha'elyonim atruim ba'avir. Ça parle des eaux d'en haut qui sont suspendues en quelque sorte, en l'air, qui sont accrochées à rien du tout. Donc, en fait, on a le verset de la Torah, c'est tout. Et donc, il lui dit, Berachefet, donc ce qui est dit ici, volté, c'est justement ce terme qu'on utilise pour les oiseaux. Et où ça touche pas, etc. Ça c'est Yerushalmi. Il veut dire par là que le mot merachefet, ce mot-là pointe dans la direction d'un mouvement très très léger. Bon, comme c'est des mouvements d'ailes qui sont pas violents parce que sinon ça pourrait blesser les oisillons. Alors que Menachevet, s'il soufflait, ça c'est quelque chose, souffler, c'est souffler fortement. Donc, il y a un souffle qui est très léger, et d'autre part, un souffle qui est beaucoup plus violent. Donc ici, on te parle d'un souffle très léger. Comme le souffle produit par les ailes de la mer qui volait au-dessus du nid des petits. Ça veut dire que même le premier jour, il y a Evdel Katan Benehem. Ou Bayom Hasheni, Amar Yehirakia Betochamaim, Venase Erchek, מן המים העליונים לרקיע, כמו ההרחק שבין מים התחתונים לרקיע. Alors il a dit, donc en fait ce qu'il veut dire par là, c'est que dès la création, il y avait cette eau qui était quasiment en suspens, et ça s'est fait tout seul la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais c'était une séparation qui n'en était pas vraiment une, comme dans ce volté des oiseaux. Alors, même quand le deuxième jour, il a étendu le rakia, il a cette étendue, et du coup, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont à la même distance de ce rakia. Le 2-3 doigts. Voilà ce qu'il dit là-bas. À partir du moment où il s'est trompé dans sa réflexion, Rabbi Yehoshua s'est rendu compte que ce que disait Ben Zoma, ça faisait pas sens. C'est une preuve qu'Hachem n'est plus avec lui et qu'il est en train de mourir. Maintenant, quelle est cette erreur? Alors, Efchar, dit-il, d'Amrou le Kaman, chez Il y a eu une kippa emsaït. Vimken al-kochach lo'aya evdel klal benehem mikodem. C'est-à-dire qu'en vérité, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il y avait une goutte qui était entre les deux. Donc il n'y avait pas de distance du tout. C'était zéro la distance. Et Benzema, il pensait que non, il devait y avoir déjà une distance initiale. Elle a été figée en quelque sorte par le Rakia, mais il devait y avoir déjà une distance, pensait-il. C'est en ça que, d'après certains, Benzema se trompait. Effectivement, il n'y a pas eu longtemps, il n'a pas fallu longtemps pour que Benzema meure. La Gemara qui ramène ce texte-là, elle parle de la mort de Benzema, parce que Benzema, il fait partie des quatre qui sont entrés dans le Pardès. Donc les trois qui ont accompagné Rabbi Akiva dans le Pardès. Et on dit là-bas, dans la Gemara, que Benzema itzitz umet. Itzitz, ça veut dire il a jeté un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'il a vu donc quand il a jeté ce coup d'œil? C'est pas toujours très clair. Mais il a vu quelque chose qu'il fallait pas voir et il savait qu'il fallait pas regarder. Mais il a néanmoins il a, et voilà, il a jeté un tout petit coup d'œil et ça a été suffisant pour le faire mourir. Donc, il en est mort. Ici, on ne nous dit pas exactement ça. Ou alors, il faudra travailler un peu pour essayer de réfléchir. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut ramener ce qui est dit dans le Midrash ici à ce qui est dit dans la Gemara dans Chagiga? Alors, pour l'instant, je vous ai juste dit ce que le Etz Yosef, qui est un des grands commentateurs, nous dit. Et bon, vous avez probablement remarqué que le texte, au lieu de dire que Benzema est Niftar, etc., c'est marqué ou Benzema Baola. Benzema est dans le monde. Certains disent que c'est par kavod pour Benzema qu'on n'a pas dit qu'il était plus de ce monde. Il était mort, etc. Donc, on a dit, Baolam, il est déjà dans le Olam Ha'emet, il est déjà dans le monde de la vérité. Bon, alors, bien sûr, on ne sait pas vraiment ce dont il parle ici. Alors, on va aller regarder si, en prenant le Midrash par l'autre côté, on va pouvoir s'approcher un peu de cela ou non. Alors, Resh Lakish, il interprète le verset en termes de galouyot. Ça veut dire que pour lui, dès la création, dès que on commence à parler de Ares Aitato Vavou, on parle de la terre, et la terre, elle est dans un état de Tohu Vavou, dans un état justement de chaos, disons. Mais quand on regarde de plus près ce qu'était ce chaos, ce chaos, c'est quelque chose qui a à voir avec les galouillotes du clan Israël. C'est-à-dire que la terre est devenue un lieu d'exil pour les Bnei Israël. C'est-à-dire, il y a eu des exils qui étaient des exils au sens courant du terme, c'est-à-dire où les Bnei Israël ont été emportés dans d'autres pays que Eretz Israël. C'était leur voilà, quand ils se sont retrouvés en Babylonie, chez en Perse, etc. Comme vous savez, il y a aussi un exil qui est appelé l'exil grec, où les ministres sont en galoute, mais leur galoute a lieu sur la terre d'Israël. Mieux, leur galoute a lieu alors qu'ils ont le Beit HaMikdash. Seulement, les choses sont changées parce que la façon de vivre des gens sur cette terre d'Israël et avec ce Beit HaMikdash, c'est une façon idolâtre. Ça veut dire, les Bnei Israël sont tombés dans l'idolâtrie. D'accord. Et donc, la terre elle-même, la terre d'Israël, quelque part, elle peut devenir un exil dès lors que sur cette terre, on se conduit comme sur n'importe quelle terre idolâtre. Donc, quelque part, la terre d'Israël, elle ne garantit pas la non-idolâtrie. Elle ne le garantit pas, malheureusement. Et donc, ça veut dire que la terre, elle est susceptible de prendre toutes sortes de formes qui sont des formes où le clan d'Israël n'est pas à sa place. Et si le clan d'Israël est le but du monde, quand le clan d'Israël n'est pas à sa place, ça veut dire que la terre ne joue pas son rôle. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire sur la terre, on ne peut rien dire de clair sur la terre. Parce que, qu'est-ce que tu vas dire, la terre c'est la terre où les nés Israël sont? Non, mais tu vois bien, c'est le mode grec, le mode de vie grec, idolâtre. Alors non, mais il y a aussi les nés Israël qui peuvent aussi être, la terre peut être aussi la terre de Babel. Les nés Israël sont en galoute, mais finalement, si on regarde, il va y avoir un développement fabuleux du judaïsme en Perse. En Babel, ce qui s'appelle Babel. C'est plus Babel, parce que Babel a été, les Babyloniens ont été battus par les Mèdes et les Perses. Les Bnei Israël sont restés au même endroit, en exil, mais ce sont des exils différents. Parce que les maîtres n'étaient plus les Babyloniens comme, donc les descendants de Nebuchadnezzar en tant que tels, les Babyloniens. Non, c'est devenu des autres, des peuples qui venaient d'alentour et qui ont battu les Babyloniens, qui ont pris leur terre et qui se sont installés sur cette terre et qui sont devenus eux les maîtres. Il y avait les Mèdes, il y avait les Perses, Arras ou Madaï. Et ici d'ailleurs, c'est intéressant que dans la présentation des exils, on parle de l'exil chez les Mèdes, on ne parle pas d'exil chez les Perses. Bon, Esther est présentée comme le texte qui nous parle du galoute de Madaï, et pas des Perses. Alors Achashverosh, il était roi de Perse ou Madaï. Il était aussi roi de toutes sortes d'endroits. Mais comme si ici on voit que le problème c'était avec les Mèdes. Certains disent aujourd'hui que les Mèdes, c'est les descendants des Mèdes, c'est les Kurdes. Je ne sais pas si c'est vrai. Et donc cette terre, on ne peut pas la clarifier, on ne peut pas la décrire convenablement parce que la terre elle est des fois babylonienne, elle est des fois grecque, elle est des fois mède, et puis il y a un moment où elle est l'abomination, la souffrance sans fin, c'est Rome. Et Rome, c'est Esav. Parce que, si vous voulez, le quatrième royaume, c'est Rome, mais nous sommes également, nous aussi, dans ce quatrième exil, quatrième royaume. C'est plus Rome, Bon, mais Rome a bougé. Rome, ça a été un moment, effectivement, l'Empire romain. Puis ensuite, c'est devenu le christianisme. Et puis, il a pris Rome, enfin, ou si vous voulez, cette Malchut Arsha'a, ce royaume, royaume méchant, si vous voulez. C'était Rome à un moment. Ça a été par la suite d'autres royaumes. Bon, dans le Maosur, il y a un des couplets qui a priori parle de Frédéric, si je ne me trompe pas. Et donc, on parle de, je crois que c'est Saint-Empire, Empire germain, on dit, romain germanique. C'est ça le Malchut Arsha à ce moment-là. C'est eux qui font ce prix de l'Israël. Après, on a dit, c'est les communistes, on a dit qu'aujourd'hui c'est l'Amérique. Rome, c'est Esav, et Esav, il peut prendre toutes sortes de vêtements, toutes sortes de, il se diversifie, si on veut. C'est le plus terrible. Alors, dire que, effectivement, dans le premier verset, le deuxième verset de la création, on parle déjà des galouillotes. D'une certaine manière, on parlerait déjà des galouillotes avant même qu'on ait parlé d'Israël. Alors bien sûr, il va y avoir une dracha de Réchit, Bishvil Israël, Shenikraim Réchit, sur le premier verset. Mais on parle des galouillotes comme si, avant qu'on ait parlé plus explicitement d'Israël. C'est quoi le galout? Alors, je vous ai dit, c'est une façon de décrire la terre. En gros, la terre, la situation de la terre à ce moment-là, c'est le galout. Mais ce galout, dans le verset lui-même, ce galout, il prend une fin. C'est fini. Seulement, à un moment donné, effectivement, c'est le Ruho Shel Melech HaMashiach. Mais, ok, c'est. Mais là, du coup, le Midrash demande, mais par quel mérite est-ce que le Mashiach va venir, en fait? Bon, cette situation-là, qu'est-ce qui va pouvoir faire venir le Mashiach? Et là, on est un petit peu étonné parce que la réponse, c'est la tchouva. Bon, mais c'est très bien, non? Est-ce qu'on a besoin du Midrash pour savoir qu'il faut faire tchouva? C'est normal que la tchouva. On comprend bien que si on ne fait pas tchouva, il n'y a pas tellement de raisons que ça s'arrange. Le galou qui ne va pas prendre fin si on ne fait pas tchouva. Donc quand il dit c'est la tchouva, c'est presque trivial, sauf que il nous dit que la tchouva, pourquoi est-ce que je peux te dire que c'est la tchouva? C'est parce que la tchouva, elle est comparée à l'eau. Il y a un problème, c'est que c'est comparé à l'eau. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de comparer la tchouva à l'eau? Et le verset qui nous aide dans cette comparaison de la tchouva avec l'eau, c'est ce verset dans Echa, dans les Lamentations, le texte des Lamentations, Echa, où il est dit « Shifri kamaim liber ». Littéralement, ça veut dire « déverse ton cœur comme si c'était de l'eau ». Ton cœur doit couler maintenant avec ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est donc le texte de la destruction du Beth Amikdash et la prise, justement, qui va être suivi par le galout de Babel. Alors, on a un verset qui nous dit, qui met la tchouva en rapport avec l'eau. L'eau ici, elle est présentée comme une façon de faire tchouva, c'est-à-dire de dépancher complètement son cœur, de vider complètement son cœur, c'est-à-dire de supplier avec toute sa force Hachem, en fait, pour que ça s'arrête, pour que ce galout s'arrête. Il faut déverser, comme si le cœur était entièrement en eau. L'eau, ça a comme caractéristique de ne pas avoir de structure, si vous voulez. L'eau, elle n'a pas de forme. Donc, déverser son cœur comme de l'eau, c'est-à-dire, c'est que on est dans un état où même la tristesse ou le désespoir n'a même pas de forme. C'est tellement fort, c'est tellement énorme, il n'y a pas de forme. C'est comme de l'eau. Sans limite, il n'y a plus. On est entièrement en eau. On n'est plus rien du tout. Et c'est ça la tshuva. Quand on dit que la tshuva est présentée, elle est comparée à l'eau, on veut dire ici que la tshuva, elle doit provenir de la conscience qu'on a, que quand on s'éloigne d'Hachem, on n'est plus rien du tout. Que tout ce qu'on a, on l'a seulement par la proximité avec Hachem. Et quand on s'éloigne d'Hachem, quand on faute, ben on n'est plus rien. On n'a plus de droit à quoi que ce soit. On est perdu. On est complètement perdu. Donc, voilà, l'eau est là. Donc, la tshuva, c'est comme de l'eau. Complètement perdu. C'est une situation dans laquelle il n'y a plus de structure du tout. Il y a l'eau qui est là. Il y a tout envahi, si on peut parler comme ça. Et néanmoins, sur cette eau, il y a ce souffle d'Elohim qui volette, quelque sorte. Pas à dire planer, puisque ensuite on va expliquer qu'il ne faut pas dire. Si on avait voulu dire planer, etc., on aurait dit autre chose. Quand on dit ici, on veut dire quelque chose qui se dit au mieux sous la forme volette. C'est ça qui va amener le Mashiach, en fait. La tshuva. La tshuva, quand les hommes auront compris qu'ils ne sont rien, si ce n'est par référence à Hachem, s'ils ne se décident pas à revenir vers Hachem, ils ne seront rien du tout. Mais donc on pourrait penser que, ben, du coup, si on ne le fait pas, c'est trop tard, finalement. Mais néanmoins, il y a ce Rav Chagai qui vient et qui dit, attends, il y a quelque chose, il y a une alliance qui a été faite avec l'eau. D'accord? L'alliance qui a été faite avec l'eau est une alliance qui qu'est-ce que c'est une alliance? Ça veut dire c'est une alliance entre Hachem et l'eau, si on peut parler comme ça. Et qui dit que quoi? Shafilu Besha Shat Sharav Rucha Shaifa. que même dans la plus grande canicule, dans le Shrav, Ramsin, si vous voulez, en Israël. Rucha Shaifa. Il y a un souffle. Où est l'eau là-dedans? C'est une alliance, on dit c'est une alliance avec l'eau, que même quand le Shrav, quand il y a la grande canicule, alors il y a quand même un souffle. C'est quoi, où est-ce qu'on voit ici une alliance avec l'eau? Vous voyez, c'est un peu compliqué. Tu me parles d'une alliance avec l'eau, et puis après, ben, tu parles de la chaleur, tu parles de la canicule. Comme si canicule ou eau, de ce point de vue-là, c'est la même chose. Peut-être c'est... Et que, de la même manière qu'il y a une alliance avec l'eau, quand est-ce qu'il y a une alliance avec l'eau? Où est-ce qu'on voit une alliance avec l'eau? Alors, le Marzoul, dans le commentaire du Midrash, il dit, sur l'alliance qui a été faite, il dit, Doresh que fi apshat, shamar ve haaretz haita tohu vavohu, bilshon avar. Après le pshat, ici, on dit, la terre était tohu vavohu. Et ensuite, on a dit, veruach elokim merachefet au présent. Le souffle, il est au présent. C'est-à-dire, c'est un présent qui dure, si vous voulez. C'est toujours, il y a toujours ce souffle. Donc c'est toujours comme ça que il y a ce souffle. Et par conséquent, Alken, donc, Iskir Elokim, chez Pirusho, Ruach me Elokim, l'irmoz à la brite, shekarat Elokim, la maim, shaharuach irachef tamid alehem, et des sheloit kalklu anaharot vayamim, aliede ashchav, valiede aruach, itkaru veloit kalklu. On lui explique comme ça. Il dit, l'alliance avec l'eau, elle est là, pour dire que, mais dans la pire des canicules, les fleuves ne seront pas asséchés. Il restera toujours de l'eau. L'eau a promis, en quelque sorte, de ne pas s'évaporer complètement. C'est ça, l'alliance. L'eau, elle était d'accord, en fait, de ne pas s'évaporer complètement. Et la façon dont elle ne s'évapore pas complètement, c'est qu'il y a toujours un souffle sur la canicule qui empêche la canicule d'être totalement destructrice. Donc, voilà où on en est, c'est-à-dire que finalement, le Mashiach, il vient grâce, évidemment, à la Tshuva, et la raison pour laquelle on peut dire qu'effectivement le Mashiach vient grâce à la Tshuva, c'est que justement la Tshuva, elle est comparée à l'eau. Donc c'est comme si, de même que l'eau ne disparaîtra pas complètement, la Tshuva, elle sera toujours possible, ça dirait. Où qu'on en soit, il y aura toujours une possibilité de faire tshuva. Il n'y aura jamais une situation où la tshuva sera plus possible parce qu'on aura été trop loin. C'est ça l'analogie, si on veut. Or, dire que, justement, ça a été rendu possible par le fait qu'avec l'eau, il y a eu une alliance. Kadosh Baruch Hu a demandé à l'eau de jouer un certain rôle. Alors, cette idée qu'il y ait une alliance avec l'eau, c'est que c'est ça l'idée, si vous voulez, qui fait penser à ces eaux d'en bas. J'ai dit les eaux d'en bas quand Hachem a fabriqué la notion d'eau d'en bas par opposition à eau d'en haut. Les eaux d'en bas, elles n'étaient pas du tout satisfaites parce qu'elles étaient coupées de la relation avec Hachem. Il y avait le Rakia qui les coupe. Et Hachem leur a dit non. Et il y a c'est une forme d'alliance. L'alliance, c'est que moi, quelque part, je vous attribue un rôle dans le monde. Alors, par exemple, l'eau, elle va se fendre quand les Bnei Israël auront besoin de sortir. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait bien que l'eau, si les Bnei Israël ne pouvaient pas traverser l'eau, passer à travers la mer, ils étaient perdus. Les Égyptiens étaient derrière. Donc il fallait que l'eau s'ouvre. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu avait fait un pacte avec les eaux d'en bas, qu'elle s'ouvrirait. C'est-à-dire, c'est le même pacte, ici, que celui dont on parle ici. Un pacte avec l'eau, qu'il y aura toujours de l'eau. Il y aura toujours de l'eau, c'est-à-dire, en fait, ça veut dire, comment est-ce qu'on garantit qu'il y aura toujours de l'eau? Et bien, quand je vous crois, on verra en permanence ce souffle-là qui vérifiera que l'eau peut rester, que l'eau va pas s'évaporer complètement, va refroidir y compris la plus grande des canicules. C'est encore une autre façon de permettre la tchouva, puisque la tchouva est comparée à l'eau. Et donc, de cette comparaison, on sait que la tchouva sera toujours possible. D'accord? Et par conséquent, le clan Israël n'est jamais perdu complètement, quoi qu'il en soit. Même si ce galout au milieu de la de ce galout de Rome qui est absolument terrible, affreux et tout ce que vous voulez. Bon, c'est tout. Rome, c'est tout. C'est les souffrances sous Rome, c'est les souffrances des croisades, c'est tout le système dans lequel on est. Eh bien, malgré tout cela, le clan Israël a une garantie que voilà, il y aura toujours une possibilité de faire tchouva. C'est-à-dire, il n'y aura pas de destruction du clan Israël. Toujours quelque chose qui va rester, comme il restera toujours un peu d'eau dans les fleuves, de la même manière, il y aura toujours une possibilité de... Et ça, c'est une alliance. Et du coup, c'est ça, je pense, le lien avec Benzoma. Bon, parce que du coup, puisqu'on a parlé de cette alliance, et donc, on entend ici l'alliance avec les eaux d'en bas, alors, on entre dans ce fameux sujet où on nous dit que Benzoma, il était en train de s'occuper justement, il s'est intéressé à un texte et justement, il travaillait sur ce texte de Maaseh Bereshit. Ce texte justement qui est le texte qui parle des eaux d'en bas, qui parle donc de cette alliance avec les eaux d'en bas. Alors on parle des eaux d'en bas, donc il faut expliquer en quoi elles sont les eaux d'en bas, et Benzoma, lui, il était en train de se demander cette situation des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, qui est la résultante, a priori, du Rakia. Lui, il pensait, et ça, semble-t-il, c'était ça son erreur, d'après ce que certains commentaires veulent dire. Lui, il pensait que quand on dit que on l'a vu, enfin on le voit ailleurs, c'est-à-dire que en réalité, lui pensait qu'il n'y avait pas de, qu'il n'y avait absolument aucune séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas avant le rakia. Et c'est ça son problème. Et d'une certaine manière, ça veut dire, alors pourquoi Hachem a créé artificiellement la séparation? Et nous, enfin, les autres pensent qu'il y avait déjà une forme de séparation sans l'étendue. C'est-à-dire qu'elles se sont séparées d'elles-mêmes, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc ça veut dire quelque part que entre, il faut, si vous voulez, il y a d'une certaine manière une possibilité de considérer qu'il y a continuité entre le haut et le bas, ou bien non. Il y a dès le départ quelque chose qui sépare le haut du bas. Et qu'ensuite, le rakia va faire complètement la différence. Il va mettre de la différence, de la distance, en quelque sorte. Mais lui, il n'arrivait pas. Benzoma, il n'arrive pas à imaginer qu'il y ait déjà cette séparation naturelle entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on peut se dire, si vous voulez, de quoi on parle exactement. Alors, il y a toujours ce qui est en haut et ce qui est en bas. Ce qui est en haut, c'est ce qui est très proche d'Hachem. Donc, chez les hommes, on peut se dire, voilà, il y a une possibilité de basculer vers la totale spiritualité, si vous voulez. Et puis d'un autre côté, il y aurait la totale matérialité. Mais on peut aussi penser que, au fond, c'est une espèce de continuum, si vous voulez. Il y aurait une continuité. Et donc c'est ça la question. Lui, Benzoma, il pensait qu'il y avait une continuité. Il pensait qu'il y avait une goutte, en quelque sorte, entre les deux eaux. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui faisaient le pont entre les deux sortes d'eau. Mais on pense, si vous voulez, que, pas nous, mais c'est les Chachamim, ne pensent pas comme Ben Zoma, si, parce que Ben Zoma, qu'est-ce qui l'a amené à penser ce qu'il pensait? La Gemara, elle dit, je vous ai rapporté, la Gemara dit que Ben Zoma ou Itzitz. Il a jeté un coup d'œil. Dans les quatre qui sont entrés au Pardès, seul Rabbi Akiva est sorti indemne. Parce que les autres, ils ne sont pas sortis indemnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce que Rabbi Akiva leur avait dit avant d'entrer. Rabbi Akiva leur a dit, vous allez à un endroit où, on peut le dire comme ça, où les sens, les cinq sens, les sens vous trompent. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez voir quelque chose et vous allez dire c'est de l'eau. Alors ne dites pas que c'est de l'eau. Parce que ce n'est pas de l'eau. Simplement, nos sens ne peuvent pas faire la différence. En vérité, il s'agit de, si on peut donner une image, c'est une espèce de marbre qui est tel que quand on marche le long de ce marbre, on a l'impression de voir de l'eau qui s'écoule. Mais c'est pas vrai. Mais vos yeux vous le disent, vos yeux, le cerveau qui enregistre ce que vous voyez, vous dit, tu vois de l'eau. Mais ne le dites pas, je vous dis, dit Rabbi Akiva, ne le dites pas. Si mes sens me le disent, et que je dise en quoi est-ce que je suis fautif. Le sens que j'ai, c'est Hachem qui me les a mis, c'est pas moi qui ai décidé de fausser les sens, et non. Mes sens me disent cela. Donc je pourrais dire, alors Hachem, alors Rabbi Akiva leur a expliqué que là où ils sont, il n'y a pas de place pour le mensonge. Pas de place pour le mensonge, même quand on se trompe. C'est-à-dire que même si je me trompe, il y a une réalité, si vous voulez. Si quelqu'un il absorbe un poison en pensant que c'est une nourriture qui ne lui fera pas de mal, il va mourir quand même, hein, même s'il s'est trompé. Il y a une triste réalité, si vous voulez. Et donc, à cet endroit-là, on ne peut pas dire un mensonge. Même si ce mensonge, il est tout à fait compréhensible, puisque mes yeux m'ont dit que c'était de l'eau. On leur a donné l'information. Ne vous laissez pas aller à ce que vous allez voir. Les yeux, à cet endroit-là, les yeux trompent, les sens trompent. Alors, dans les quatre, il y en a un qui a très mal tourné, comme chacun sait, celui qu'on a fini par appeler Acher, Elisha ben Abuya, qui était un énorme Talmid Chacham, quelqu'un dont Rabbi Meir suivait l'enseignement même après qu'il ait mal tourné. Mais pourquoi il a mal tourné? Parce que quand il est arrivé, il a vu qu'il y a un ange qui s'appelle Métatron, qui était assis et qui écrivait les mérites d'Israël. Métatron, c'est l'ange relais, en fait, l'ange qui s'occupe de... est en charge par Hachem de faire fonctionner le monde d'une certaine manière. Et il fait fonctionner le monde en tenant compte des mérites du clan d'Israël. Mais le problème d'Elisha ben Abuya, c'est que Métatron était assis. Donc, il y a une règle que dans le monde d'en haut, même dans le Beth Amikdash, sauf exception, on ne peut pas s'asseoir. Parce que quand tu t'assieds, tu fais comme si tu étais chez toi. Quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne vous asseyez pas sans qu'on vous invite à vous asseoir. Parce que s'asseoir, c'est quelque part faire, voilà, je me conduis en propriétaire. Et donc, que Métatron soit assis, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça veut donc dire qu'il y aurait deux divinités. Il y a Hachem, il n'a jamais contesté qu'il y avait Hachem, mais il y a une autre divinité, puisqu'il y a quelqu'un, cet ange-là, qui a toutes sortes de pouvoirs, il est assis. Il est, on va pas dire de plein pied, puisqu'il est assis, mais il est vraiment chez lui. Et donc, il s'est dit, c'est pas possible. Bon, il est tombé dans une forme de dualisme, si vous voulez. Les autres, il y en a un qui, quand il a regardé, il est mort tout de suite. Et Benzoma, lui, il savait qu'il fallait pas regarder, donc il n'a pas regardé, mais il a jeté un coup d'œil. Juste. Et ça l'a troublé complètement. Et donc, quelque part, finalement, il en est mort aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Si ça veut dire que lui pensait, quand on voit la chose comme ça, on a l'impression qu'il y aurait donc si on veut pas dire que c'est deux divinités, mais on devrait dire qu'il y a une espèce de continuité, si on veut parler comme ça, entre Hachem et Métatron et le monde. Une continuité, c'est-à-dire, c'est pas une rupture, en fait. Parce que la raison pour laquelle Métatron est assis, c'est parce que Hachem lui a dit de s'asseoir. C'est tout. C'est très simple. Hachem lui a dit de t'asseoir. Parce que tu es en charge de faire un certain travail qui nécessite que tu sois assis, alors tu es assis. Une fois qu'on est assis chez quelqu'un avec la permission de ce quelqu'un, ça veut plus rien dire du tout, puisqu'il m'a donné la permission. Et eux, ils n'ont pas imaginé que quelqu'un puisse s'asseoir, puisse avoir la permission. Parce que si tu dis qu'il y a la permission, alors il y avait ou bien tu dis, bon, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être assis, normalement, mais on lui a fait une faveur, on lui a dit, tu peux t'asseoir. Or, Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité aux hommes de faire des tas de choses. Mais on fait les choses parce qu'Hachem les a prescrites. Si Hachem ne l'avait pas prescrite, on ne pourrait pas les faire. Et d'un autre côté, il y a des gens qui s'imaginent que on peut avoir une ligne directe avec Hachem, c'est une continuité. Par exemple, celui qui, dans la parasha de cette semaine, celui qui veut qu'Hachem, qui veut interroger Hachem sur l'opportunité de divorcer ou de ne pas divorcer de son épouse, il veut qu'Hachem se mêle de son affaire. Il fait comme s'il avait une ligne directe avec Hachem qui lui permet de, qui va demander et qui va quasiment obliger Hachem à lui répondre, comme s'il y avait une continuité entre eux. Voilà, c'est Hachem et moi, etc. Alors, on est très proche d'Hachem, on doit, mais il faut surtout pas oublier la différence. C'est radicalement différent. C'est tout. On a une permission de prier, on a une permission de faire toutes sortes de choses qui, sans permission, serait quasiment lèse-majesté, si vous parlez comme ça. Alors, Benzoma, il pensait que il peut pas y avoir une séparation entre les choses. Naturellement, elles vont pas se séparer. Il y a que Hachem qui peut venir et séparer les choses. En fait, il fallait comprendre que dans la création elle-même, les choses, elles vont se séparer un tout petit peu, parce que l'être, par exemple, si je regarde au niveau de l'être humain, il est à la fois spirituel et à la fois matériel. On a les deux choses en nous, mais ce sont deux choses distinctes, c'est-à-dire, on a un corps, on a une neshama, travaille ensemble, si on veut. La neshama, elle est dans le corps, elle fait vivre le corps, mais d'un autre côté, pour que la neshama puisse continuer de vivre, il faut bien que le corps la nourrisse. Quand on arrête de manger, la neshama, elle s'en va. Quand la neshama, elle n'a pas besoin de nourriture physique. Et c'est comme ça, là, les choses sont... Beaucoup a dit qu'elles sont... On peut les rendre dépendantes, interdépendantes, mais elles sont néanmoins deux choses, des choses distinctes, en fait. Et donc, la question était... Est-ce que, dès le départ, il y a cette distinction? Ou bien est-ce que la distinction, elle est artificielle, en quelque sorte? Hachem qui a introduit le Rakia pour les séparer, mais autrement, elles ne se seraient jamais séparées, ces hommes. Maintenant, on peut essayer de voir, est-ce que ce problème-là, il a à voir avec les galouillottes? N'est-ce pas? Le galout, normalement, c'est une sanction de la conduite d'Israël. Ça veut dire que dans le monde, il ne doit pas obligatoirement y avoir des galouillottes. Si les bénis d'Israël se conduisaient bien, il n'y aurait pas de galouillottes. Alors comment se fait-il qu'il y ait, on parle des galouillottes, ce sont les galouillottes. C'est quoi? Ça veut dire que c'est essentiel à la création, les galouillottes. C'est presque comme si les galouillottes étaient avant Israël même. C'est ça ce que dit ici Resh Lakish. Il dit, non, j'interprète ce verset comme parlant des différentes galouillottes. C'est-à-dire que dès la création, il y a la mise en place des endroits, enfin des galouillottes, et aussi jusque y compris la Mashiach, la sortie de ces galouillottes. Comme si, au fond, il y avait un processus, vous voulez, dès le départ, avec des conditions, est-ce que ça va être utilisé, ça va pas être utilisé avant, je ne sais pas, mais tout est mis en place pour ça. Tout est mis en place, en tout cas, dès le départ, il y a cette notion de galouillotte. Même avant de faire référence directement à Israël. En fait. Donc la question c'est, justement, comment il faut entendre les galouillottes? Est-ce que les galouillottes sont nécessaires, enfin on peut parler comme ça, ou bien est-ce qu'elles sont malgré tout liées à la conduite d'Ebné Israël? Si je les interprète comme étant le sens de ce verset, est-ce que je suis en train de dire que les galouillottes sont absolument nécessaires? Elles devaient avoir lieu obligatoirement? On a l'impression qu'il y a quelque chose de cela. Mais à ce moment-là, ça veut dire que ces séparations, le fait que les Israël vont devoir se séparer de la terre d'Israël et vont devoir aller dans ces galouillottes, c'est prévu depuis l'éternité. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est pas vraiment à cause de la faute des Israël qu'on est là-bas. On retrouve ici cette ce fameux Midrash où Adam Arishon dit à Kadosh Baruch Hu, tu fais comme si c'est ma conduite qui a entraîné ma condition de mortel. Mais c'était déjà écrit dans la Torah, dans la parasha de Zotrukat HaTorah, Adam Kiyamut. On parle déjà de la mort dans la Torah. Et la Torah, elle a été écrite bien avant que j'agisse, dit Adam. On appelle ça des alilot, des ruses d'Hachem. Et la même chose, Moshe Rabbeinu nous dit, tu dis que je n'entrerai pas en Eretz Israël parce que j'ai frappé le rocher. C'était marqué dans la Torah que c'est Yoshua qui le fait entrer, mais Israël. Depuis toujours, c'est Yoshua qui le fait entrer. Et là, c'est toujours la même chose. Il y a ce qui s'appelle des alilot Hashem. Des prétextes, en quelque sorte, Hashem. Et tout ça, ça vient d'un sujet un peu compliqué. Juste en dire deux mots. Il y a en réalité, c'est comme ça que le Ramchal le présente, il y a deux façons de gouverner le monde. Il y a une façon qui est selon le principe de Sra'ar V'Onesh. C'est-à-dire, les Bnei Israël se conduisent bien, alors ça va bien, se conduisent mal, ça va mal. Et puis il y a une autre façon de gouverner le monde, qui est qu'il y a un projet divin, et ce projet divin, il va se réaliser de toute manière. Alors, qu'on soit d'accord ou pas, éventuellement, on va faire des détours, parce qu'on sera mal comporté, etc. Mais en tout cas, le projet va se réaliser. Alors, ici, on a le détail qui nous dit que, d'après Reish Lakish, ça va se réaliser. Le projet va se réaliser, c'est-à-dire, il y aura le Mashiach. Il y aura le Mashiach, et ce Mashiach, il viendra pourquoi? Parce qu'en réalité, quand il a créé le monde, il a créé cette espèce de souffle qui va garantir qu'il y aura toujours de l'eau, qui va aussi garantir qu'on pourra faire toujours tshuva. Donc, si vous voulez, c'est pas qu'il y aura un miracle que le Mashiach viendra. Le miracle, c'est qu'Hachem, il a prévu d'emblée qu'on pourra faire tshuva. Et qu'il n'y aura jamais une situation, de la même manière qu'il n'y aura pas une situation où il n'y aura plus d'eau du tout, il n'y aura pas non plus une situation dans laquelle il n'y aura pas de tshuva possible. Donc, il y aura toujours un moment où on pourra faire la tshuva. Et donc, pourquoi? Parce qu'Hachem, il fait coïncider les choses. Les prétextes d'Hachem, c'est faire coïncider les choses. C'est vrai que Moshe ne devait pas entrer en Eretz Israël, mais il faut faire apparaître les choses comme si c'était de sa faute, d'une certaine manière, qu'il n'est pas entré. C'est comme ça, faire coïncider les deux anagotes, les deux façons de gouverner le monde. Et donc ici, Reish Lakish nous enseigne qu'effectivement, il y aura Tshuva, il y aura Mashiach, donc, finalement, mais que, au fond, c'est d'une certaine façon, ça s'appellera quand même des galouillotes, et les Bnei Israël vont, si vous voulez, justifier par leur conduite ces galouillotes. Et peut-être que, je vais en terminer avec ça, vous savez que Moshe Rabbeinu, il n'était pas d'accord avec Hachem. Quand Hachem a voulu faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu a dit non. Pourquoi? Parce qu'Hachem, quand Moshe Rabbeinu lui a demandé « Quel est ton nom ?», alors Hachem lui a dit « Eke, Hachem, Eke, je serai, ce que je serai, c'est-à-dire, je serai avec les Bnei Israël dans les galouillotes à venir, comme je le suis dans ce galout-là. » Moshe Rabbeinu a dit « Non, mais ça va pas. » Au lieu de faire un miracle, de faire sortir les Bnei Israël maintenant, donne-leur la force de tenir suffisamment longtemps pour qu'il n'ait plus besoin de galouillotes par la suite. Tu leur fais un miracle, ils sortent maintenant, mais il y aura encore... on va sortir, mais je vous rassure tout de suite, il y aura encore d'autres galouillotes. On n'est pas intéressé. Moi, je ne le voulais pas. Il a dit, non, je ne vais pas. Je ne veux pas faire sortir les Bnei Israël pour leur annoncer que, oh Hachem, vous aurez encore d'autres galouillotes, rassurez-vous. Non, c'est invendable. Je ne veux pas une chose pareille. Mais Hachem n'a pas cédé. Bon, Moshe Rabbeinu a dû s'écraser. Il n'a pas, beaucoup lui a pas donné ce qu'il voulait ici. Hachem a décidé, non, il y aura des galouillotes. Ça veut dire, vous allez sortir, les Bnei Israël vont sortir. Maintenant, parce qu'ils ne sortent pas maintenant, ils sont perdus. Mais bon, Hachem aurait pu, de même qu'il les a fait sortir maintenant, il pouvait aussi arranger les choses pour qu'on ne soit pas perdus. Et on est sorti 190 ans avant le terme. Alors, c'est vrai que si on s'imagine que le galout dans lequel on est maintenant, ça a duré plus que 10 fois ça, si on imagine, est-ce que ça veut dire que la difficulté des 190 ans que les Bnei Israël auraient dû vivre encore en Égypte, c'était 10 fois plus que tout ce qu'on a, enfin, 10 fois plus dense. Donc, imaginez toute la souffrance du clan Israël, qui s'est répartie sur 1900 ans, si vous voulez, contractez-la sur 190, et imaginez la souffrance que ça représentait en Égypte. Si on veut... Je ne sais pas si c'est réel, mais on peut comprendre que bon, c'est impossible. Mais bon, Hachem, rien n'est impossible pour Hachem. Il aurait pu nous donner la force de résister à cela. Non, mais il voulait pas. Mais peut-être il veut pas parce que c'est ça, parce que quelque part, pour des raisons qui nous échappent complètement, il faut qu'il y ait un processus de galoute. De la même manière qu'on comprend pas non plus pourquoi. On parle jamais, quand on parle de ces galouillotes, on parle jamais de galout Mitzrayim. On parle jamais de l'exil d'Égypte. Pourtant, c'est la mère des exils. Et d'après ce que je vous raconte maintenant, c'est même, au fond, parce que cet exil-là n'est pas allé jusqu'au bout qu'on a les autres. Pourquoi on n'en parle jamais? Et pourquoi ça a eu lieu? Ça a eu lieu, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a proposé un deal à Avraham Avinu. Est-ce que tu préfères que tes descendants soient une civilisation mortelle? C'est-à-dire, comme ça, sans. Ou est-ce que tu préfères que tes descendants, ils aillent en galout? D'accord? Et qu'ils auront, de ce fait, ils auront l'éternité. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est, au lieu d'avoir cette colonne comme ça, on couchait la colonne et voilà. Mais c'est quoi ce deal là? C'est quoi la peste ou le choléra? Pourquoi Hachem il propose à Abraham Avinu un deal pareil? Pourquoi on ne pourrait pas avoir une civilisation qui dure simplement sans qu'elle n'a pas besoin de crever les plafonds. Mais bon, sans galoute, c'est tout, ça dure. Ça n'irait, c'est pas possible. C'est-à-dire, quelque part, le deal, c'est entre la mort et la mort. Ou bien la mort réelle, complète, civilisation mortelle, ou alors c'est une forme faible de mort. Alors c'est bien que l'exil, le galout, c'est une forme ferme de mort. Le galout qu'on donne à celui qui a tué par inadvertance, on pourrait dire, ben voilà, il a tué, on va le tuer. C'est facile de mort. D'accord? Tu tues quelqu'un, bon, t'as pas fait exprès, bon, mais tu l'as tué quand même. Alors tu vas mourir. Non. Tu vas pas mourir, tu risques de mourir, mais tu ne seras pas mort parce qu'on va te donner des villes-refuges. Et tu iras dans une ville-refuge et tu seras protégé dans cette ville-refuge. Et tu seras en galoute pendant un certain temps. Mais seulement ça ne devait pas du tout être un galoute. Le galoute en question, dont on parle là-bas dans les villes-refuges, c'est un galoute relativement doux, parce que c'est un galoute où on recrée à la personne tout ce qu'elle avait, sauf qu'elle n'est pas chez elle. Alors c'est vrai, il y a un sentiment, on n'est pas chez soi. Mais on va lui donner ce qu'il avait. Si c'était un Rosh Yeshiva, sa Yeshiva, elle va aller en galoute, pour que lui puisse continuer de donner son enseignement. On va lui recréer ses conditions de vie. Parce qu'on ne veut pas le tuer. Il faut simplement qu'il expérimente. Alors, comment ça fonctionne? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Alors, je dirais, si on veut, quand quelque chose a lieu, d'accord? Et bien, quand quelque chose existe, on dit qu'elle a lieu. Avoir lieu. Elle a un makom. Elle a un lieu. Toute chose pour exister a un lieu. Elle a lieu, ça veut dire, elle existe. La mort, c'est quand on n'a plus de lieu. Elle n'a plus lieu, elle n'existe plus, elle n'a plus de lieu. Alors, il y a deux façons de ne pas avoir de lieu. Il y a ne pas avoir lieu du tout quand on est mort, et ne pas avoir de lieu parce qu'on n'est plus dans son lieu, mais dans un autre lieu que le mien. Donc, ce serait ça la notion de galout au sens de mort faible. La Torah, elle a donné au Bnei Israël des formes plus faibles. Par exemple, il y a une halakha qui dit qu'un Ben Noach qui transgresse n'importe laquelle de ses sept mitzvot, il est passible de mort. Donc, d'une façon analogue, on devrait dire que nous, quand on transgresse un interdit, on devrait être passible de mort. Alors, Rava, il explique qu'en vérité, à cause de Bourou, il a fait une fleur au Bnei Israël. Il a remplacé la peine de mort généralisée par des peines de coups. On va frapper quelqu'un en vérifiant bien qu'il ne meurt pas. D'abord, on fait une expertise médicale pour savoir combien de coups on peut lui donner. Et on ne donnera pas plus de coups. On n'a pas le droit, ce serait un meurtre, que de lui donner un coup de plus. Mais, donc, on a remplacé la vraie mort par une espèce de petite, de mort moins... C'est quand même une grande souffrance, c'est des coups de fouet en théorie. Et donc, c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il a aménagé les choses. En quelque sorte. Donc, c'est ça la notion d'exil. Finalement, c'est la vie. Et si vous voulez, pour avoir la vie, il faut être capable de s'arracher à la mort, si on vous parlez comme ça. Et s'arracher à la mort, ça veut dire mériter de ne pas mourir. Kadosh Baruch Hu nous a dit, bon, là, pour ne pas mourir, alors que vous mériteriez de mourir, vous allez aller en galoute. J'ai préparé pour vous des galouillottes. Comme si les galouillottes, c'est presque les villes-refuges, quoi. Vous allez avoir ces exils. Au lieu de mourir, vous allez aller en exil. Et ça commence comme ça. C'est le deal d'Abraham Avinu.